Édouard Chouret, les grands initiés, Krishna. Suite. Chapitre 7, le triomphe et la mort. Après avoir instruit ses disciples sur le mont Meros, Krishna se rendit avec eux sur les bords de la Jamuna et du Gange, afin de convertir le peuple. Il entrait dans les cabanes et s'arrêtait dans les villes. Le soir, aux abords des villages, la foule se groupait autour de lui. Ce qu'il prêchait avant tout au peuple, c'était la charité envers le prochain. Les maux dont nous affligeons notre prochain, disait-il, nous poursuivent ainsi que notre ombre suit notre corps. Les œuvres qui ont pour principe l'amour du semblable, sont celles qui doivent être ambitionnées par le juste, car ce seront celles qui pèseront le plus dans la balance céleste. Si tu fréquentes les bons, tes exemples seront inutiles. Ne crains pas de vivre parmi les méchants pour les ramener au bien. L'homme vertueux est semblable aux multipliants gigantesques dont l'ombrage bienfaisant donne aux plantes qui l'entourent la fraîcheur de la vie. Parfois, Krishna, dont l'âme débordait maintenant d'un parfum d'amour, parlait de l'abnégation et du sacrifice d'une voix suave et en images séduisantes. De même que la terre supporte ceux qui la foulent aux pieds et lui déchire le sein en la labourant, de même, nous devons rendre le bien pour le mal. L'honnête homme doit tomber sous le coup des méchants, comme l'arbre santal qui, lorsqu'on l'abat, parfume la hache qui l'a frappé. Lorsque les demi-savants, les incrédules ou les orgueilleux lui demandaient de leur expliquer la nature de Dieu, ils répondaient par des sentences comme celle-ci. La science de l'homme n'est que vanité. Toutes ses bonnes actions sont illusoires quand il ne sait pas les rapporter à Dieu. Celui qui est humble de cœur et d'esprit est aimé de Dieu. Il n'a pas besoin d'autre chose. L'infini et l'espace peuvent seuls comprendre l'infini. Dieu seul peut comprendre Dieu. Ce n'étaient pas les seules choses nouvelles de son enseignement. Il ravissait, il entraînait la foule surtout par ce qu'il disait du Dieu vivant, de Vishnu. Il enseignait que le maître de l'univers était incarné déjà plus d'une fois parmi les hommes. Il avait paru successivement dans les sept rishis, dans Vyasa et dans Vashina. Il paraîtrait encore. Mais Vishnu, au dire de Krishna, se plaisait quelquefois à parler par la bouche des humbles, dans un mendiant, dans une femme repentante, dans un petit enfant. Il racontait au peuple la parabole du pauvre pêcheur Durga, qui avait rencontré un petit enfant mourant de faim sous un tamarinier. Le bon Durga, quoique ployé sous la misère et chargé d'une nombreuse famille qu'il ne savait comment nourrir, fut ému de pitié pour le petit enfant et l'emmena chez lui. Or, le soleil s'était couché, la lune montait sur le Gange, la famille avait prononcé la prière du soir et le petit enfant murmura à mi-voix. Le fruit du kataka purifie l'eau. Ainsi, les bienfaits purifient l'âme. Prends tes filets, Durga. Ta barque flotte sur le Gange. Durga jeta ses filets et ils ployèrent sous le nombre des poissons. L'enfant avait disparu. Ainsi, disait Krishna, quand l'homme oublie sa propre misère pour celle des autres, Vishnu se manifeste et le rend heureux dans son cœur. Par de tels exemples, Krishna prêchait le culte de Vishnu. Chacun était émerveillé de trouver Dieu si près de son cœur, qu'en parlait le fils de Dévaki. La renommée du prophète du mont Meru se répandit en Inde. Les pâtres qu'il avait vus grandir et avaient assisté à ses premiers exploits ne pouvaient croire que ce saint personnage fut le héros impétueux qu'ils avaient connu. Le vieux Nanda était mort, mais ses deux filles, Sarasvati et Nishdali, que Krishna aimait, vivaient encore. Diverses avaient été leurs destinées. Sarasvati, irritée du départ de Krishna, avait cherché l'oubli dans le mariage. Elle était devenue la femme d'un homme de caste noble qu'il avait prise pour sa beauté. Mais ensuite, il l'avait répudiée et vendue à un vaïsya ou marchand. Sarasvati avait quitté par mépris cet homme pour devenir une femme de mauvaise vie. Puis un jour, désolée dans son cœur, prise de remords et de dégoût, elle revint vers son pays et elle a trouvé secrètement sa sœur Nishdali. Celle-ci, pensant toujours à Krishna comme s'il était présent, ne s'était point mariée et vivait auprès d'un frère comme servante. Sarasvati lui ayant conté ses infortunes et sa honte, Nishdali lui répondit « Ma pauvre sœur, je te pardonne, mais mon frère ne te pardonnera pas. Krishna seul pourrait te sauver. » Une flamme brilla dans les yeux éteints de Sarasvati. « Krishna, dit-elle, qu'est-il devenu ? Un saint, un grand prophète. Il prêche sur les bords du Gange. » « Allons le trouver, dit Sarasvati. » Et les deux sœurs se mirent en route, l'une flétrie par le passé, l'autre embaumée d'innocence. Et cependant, toutes deux consumées d'un même amour. Krishna était en train d'enseigner sa doctrine aux guerriers Kshatriya, car tour à tour, il entreprenait les brahmanes, les hommes de la caste militaire et le peuple. Aux brahmanes, il expliquait avec le calme de l'âge mûr les vérités profondes de la science divine. Devant les rajas, il célébrait les vertus guerrières et familiales avec le feu de la jeunesse. Au peuple, il parlait avec la simplicité de l'enfance, de charité, de résignation et d'espérance. Krishna était assis à la table d'un festin chez un chef renommé lorsque deux femmes demandèrent à être présentées au prophète. On les laissa entrer à cause de leur costume de pénitente. Sarasvati et Nishdali allèrent se prosterner aux pieds de Krishna. Sarasvati s'écria en versant un torrent de larmes « Depuis que tu nous as quittés, j'ai passé ma vie dans l'erreur et le péché. Mais si tu le veux, Krishna, tu peux me sauver. » Nishdali ajouta « Ô Krishna, quand je t'ai vu autrefois, j'ai su que je t'aimais pour toujours. Maintenant que je te retrouve dans ta gloire, je sais que tu es le fils de Mahadeva. » Et toutes les deux embrassèrent ses pieds. Les rajas dirent, pourquoi, saint Rishi, laisses-tu ces femmes du peuple t'insulter par leurs paroles insensées? Krishna leur répondit, laissez-les épancher leur cœur, elles valent mieux que vous, car celle-ci a la foi et celle-là l'amour. Sarasvati, la pécheresse, est sauvée dès à présent parce qu'elle a cru en moi. Et Nishdali, dans son silence, a plus aimé la vérité que vous par tous vos cris. Sachez donc que ma mère radieuse, qui vit dans le soleil de Mahadeva, lui enseignera les mystères de l'amour éternel, quand vous tous serez encore plongés dans les ténèbres des vies inférieures. À partir de ce jour, Sarasvati et Nishdali s'attachèrent au pas de Krishna et le suivirent avec ses disciples. Inspirées par lui, elles enseignèrent les autres femmes. Kamsa régnait toujours à Mathura. Depuis le meurtre du vieux Vasishta, le roi n'avait pas trouvé de paix sur son trône. La prophétie de l'anachorète s'était réalisée. Le fils de Devaki était vivant. Le roi l'avait vu. Et devant son regard, il avait senti se fondre sa force et sa royauté. Il tremblait pour sa vie comme une feuille sèche. Et souvent, malgré ses gardes, il se retournait brusquement, s'attendant à voir le jeune héros, terrible et radieux, debout sous sa porte. De son côté, Missumba, roulé sur sa couche, au fond du gynécée, songeait à ses pouvoirs perdus. Lorsqu'elle apprit que Krishna, devenu prophète, prêchait sur les bords du Gange, elle persuada le roi d'envoyer contre lui une troupe de soldats et de l'amener garrotté. Quand Krishna les aperçut, il sourit et leur dit « Je sais qui vous êtes et pourquoi vous venez. Je suis prêt à vous suivre auprès de votre roi. Mais avant, laissez-moi vous parler du roi du ciel qui est le mien. » Et il commença à parler de Mahadeva, de sa splendeur et de ses manifestations. Quand il eut fini, les soldats rendirent leurs armes à Krishna en disant « Nous ne t'emmènerons pas prisonnier auprès de notre roi, mais nous te suivrons chez le tien. » Et ils restèrent auprès de lui. Kamsa, ayant appris cela, fut fort effrayé. Missumba lui dit « Envoie les premiers du royaume. » Ainsi fut fait. Ils allèrent dans la ville où Krishna enseignait. Ils avaient promis de ne pas l'écouter. Mais quand ils virent l'éclat de son regard, la majesté de son maintien et le respect que lui témoignait la foule, ils ne purent s'empêcher de l'entendre. Krishna leur parla de la servitude intérieure de ceux qui font le mal et de la liberté céleste de ceux qui font le bien. Les kshatriyas furent pleins de joie et de surprise, car ils se sentirent comme délivrés d'un poids énorme. « En vérité, tu es un grand magicien, » dirent-ils, « car nous avions juré de te mener au roi avec des chaînes de fer. Mais il nous est impossible de le faire, puisque tu nous as délivrés des nôtres. » Ils s'en retournèrent auprès de Kamsa et lui dirent « Nous ne pouvons t'amener cet homme. C'est un très grand prophète et tu n'as rien à craindre de lui. » Le roi, voyant que tout était inutile, fit tripler ses gardes et mettre des chaînes de fer à toutes les portes de son palais. Un jour, cependant, il entendit un grand bruit dans la ville, des cris de joie et de triomphe. Les gardes vinrent lui dire « C'est Krishna qui entre dans Mathura. Le peuple enfonce les portes, il brise les chaînes de fer. » Kamsa voulut s'enfuir. Les gardes eux-mêmes l'obligèrent à rester sur son trône. En effet, Krishna, suivi de ses disciples et d'un grand nombre d'anachorètes, faisait son entrée dans Mathura, pavoisé d'étendards, au milieu d'une multitude entassée d'hommes qui ressemblait à une mer agitée par le vent. Il entrait sous une pluie de guirlandes et de fleurs. Tous l'acclamaient. Devant les temples, les brahmanes se tenaient groupés sous les bananiers sacrés pour saluer le fils de Devaki, le vainqueur du serpent, le héros du mont Meru, mais surtout le prophète de Vishnu. Suivi d'un brillant cortège et salué comme un libérateur par le peuple et les kshatriyas, Krishna se présenta devant le roi et la reine. « Tu n'as régné que par la violence et le mal, » dit Krishna à Kamsa, « et tu as mérité 1000 morts parce que tu as tué le saint vieillard Vasishta. Pourtant, tu ne mourras pas encore. Je veux prouver au monde que ce n'est pas en les tuant qu'on triomphe de ses ennemis vaincus, mais en leur pardonnant. Mauvais magicien, dit Kansa, tu m'as volé ma couronne et mon royaume. Achève-moi. Tu parles comme un insensé, dit Krishna, car si tu mourais dans ton état de déraison, d'endurcissement et de crime, tu serais irrévocablement perdu dans l'autre vie. Si, au contraire, tu commences à comprendre ta folie et à te repentir dans celle-ci, ton châtiment sera moindre dans l'autre, et, par l'entremise des purs esprits, Mahadeva te sauvera un jour. Nisumba, penché à l'oreille du roi, murmura. Insensé, profite de la folie de son orgueil. Tant qu'on est vivant, il reste l'espoir de la vengeance. Krishna comprit ce qu'elle avait dit sans l'avoir entendu. Il lui jeta un regard sévère de pitié pénétrante. Ah, malheureuse, toujours ton poison. Corruptrice, magicienne noire, tu n'as plus dans ton cœur que le venin des serpents. Extirpe-le, ou un jour je serai forcée d'écraser ta tête. Et maintenant, tu iras avec le roi dans un lieu de pénitence pour expier tes crimes sous la surveillance des brahmanes. Or, après ces événements, Krishna, avec le consentement des grands, du royaume et du peuple, consacra Arjuna, son disciple, le plus illustre descendant de la race solaire, comme roi de Madura. Il donna l'autorité supérieure aux brahmanes, qui devinrent les instituteurs des rois. Et lui-même demeura le chef des anachorètes, qui formèrent le conseil supérieur des brahmanes. Afin de soustraire ce conseil aux persécutions, il fit bâtir pour eux et pour lui une ville forte au milieu des montagnes, défendue par une haute enceinte et par une population choisie. Elle s'appelait Dwarka. Au centre de cette ville se trouvait le temple des initiés, dont la partie la plus importante était souterrainement cachée. Cependant, lorsque les rois du culte lunaire apprirent qu'un roi du culte solaire était remonté sur le trône de Madura et que les brahmanes, par lui, allaient devenir les maîtres de l'Inde, ils firent entre eux une ligue puissante pour le renverser. Arjuna, de son côté, groupa autour de lui tous les rois du culte solaire de la tradition blanche, aryenne, védique. Du fond du temple de Dwarka, Krishna les suivait, les dirigeait. Les deux armées se trouvaient en présence et la bataille décisive était imminente. Cependant, Arjuna, n'ayant plus son maître auprès de lui, sentait son esprit se troubler et faiblir son courage. Un matin, au point du jour, Krishna apparut devant la tente du roi, son disciple. Pourquoi, dit sévèrement le maître, n'as-tu pas commencé le combat qui doit décider si les fils du soleil ou les fils de la lune vont régner sur la terre? Sans toi, je ne le puis, dit Arjuna. Au regard de ces deux armées immenses et ces multitudes qui vont s'entretuer. De l'éminence où il était placé, le seigneur des esprits et le roi de Madura contemplèrent les deux armées innombrables, rangées en ordre, l'une en face de l'autre. On y voyait briller les cottes de mailles dorées des chefs. Des milliers de fantassins, de chevaux et d'éléphants attendait le signal du combat. À ce moment, le chef de l'armée ennemie, le plus vieux des Kauravas, souffla dans sa conque marine, dans la grande conque dont le son ressemblait au rugissement d'un lion. À ce bruit, on entendit tout à coup sur le vaste champ de bataille des hennissements de chevaux. un bruit confus d'armes, de tambours et de trompettes. Et ce fut une grande rumeur. Arjuna n'avait plus qu'à monter sur son char traîné par des chevaux blancs et à souffler dans sa conque d'un bleu céleste pour donner le signal du combat au fils du soleil. Mais voici que le roi fut submergé de pitié et dit, très abattu, « En voyant cette multitude en venir aux mains, je sens tomber mes membres, ma bouche se dessèche, mon corps tremble, mes cheveux se dressent sur ma tête, ma peau brûle, mon esprit tourbillonne. Je vois de mauvais augures. Aucun bien ne peut-il venir de ce massacre. Que ferons-nous avec des royaumes, des plaisirs et même avec la vie? Ceux-là même pour lesquels nous désirons des royaumes, des plaisirs, des joies, sont debout là pour se battre, oubliant leur vie et leur bien. Précepteurs, pères, fils, grands-pères, oncles, petits-fils, parents vont s'entr'égorger. Je n'ai pas envie de les tuer pour régner sur les trois mondes, mais bien moins encore pour régner sur cette terre. Quel plaisir éprouverais-je à tuer mes ennemis? Les félons morts, le péché retombera sur nous. Comment t'a-t-il saisi, dit Krishna, ce fléau de la peur, indigne du sage, source d'infamie qui nous chasse du ciel? Ne sois pas efféminé, debout. Mais Arjuna, accablé de découragement, s'assit en silence et dit « Je ne combattrai pas. » Alors Krishna, le roi des esprits, reprit avec un léger sourire. « Ô Arjuna, je t'ai appelé le roi du sommeil pour que ton esprit veille toujours. Mais ton esprit s'est endormi et ton corps a vaincu ton âme. Tu pleures sur ceux qu'on ne devrait pas pleurer et tes paroles sont dépourvues de sagesse. Les hommes instruits ne se lamentent ni sur les vivants ni sur les morts. Moi et toi et ces commandeurs d'hommes, nous avons toujours existé et nous ne cesserons jamais d'être à l'avenir. De même que dans ce corps, l'âme éprouve l'enfance, la jeunesse, la vieillesse, de même elle l'éprouvera en d'autres corps. Un homme de discernement ne s'en trouble pas. Fils de Bharat, supporte la peine et le plaisir d'une âme égale. Ceux qui n'atteignent plus méritent l'immortalité. Ceux qui voient l'essence réelle voient l'éternelle vérité qui domine l'âme et le corps. Sache-le donc, ce qui traverse toutes les choses est au-dessus de la destruction. Personne ne peut détruire l'inépuisable. Tous ces corps ne dureront pas, tu le sais, mais les voyants savent aussi que l'âme incarnée est éternelle, indestructible et infinie. C'est pourquoi va combattre, descendant de Bharat. Ceux qui croient que l'âme peut tuer ou qu'elle est tuée se trompent également. Elle ne tue ni n'est tuée. Elle n'est pas née et ne meurt pas, et ne peut pas perdre cet être qu'elle a toujours vu. Comme une personne rejette de vieux habits pour en prendre de nouveaux, ainsi l'âme incarnée rejette son corps pour en prendre d'autres. Ni l'épée ne la tranche, ni le feu ne la brûle, ni l'eau ne la mouille, ni l'air ne la sèche. Elle est imperméable et incombustible. Durable, ferme, éternelle, elle traverse tout. Tu ne devrais donc t'inquiéter ni de la naissance, ni de la mort, ô Arjuna. Car pour celui qui naît, la mort est certaine, et pour celui qui meurt, la naissance. Regarde ton devoir sans broncher, car pour un kshatriya, il n'y a rien de mieux qu'un juste combat. Heureux les guerriers qui trouve la bataille comme une porte ouverte sur le ciel. Mais si tu ne veux pas combattre ce juste combat, tu tomberas dans le péché, abandonnant ton devoir et ta renommée. Tous les êtres parleront de ton infamie éternelle. Et l'infamie est pire que la mort pour celui qui a été honoré. À ces paroles du maître, Arjuna fut saisi de honte et sentit rebondir son sang royal avec son courage. Il s'élança sur son char et donna le signal du combat. Alors, Krishna dit adieu à son disciple et quitta le champ de bataille, car il était sûr de la victoire des fils du soleil. Cependant, Krishna avait compris que pour faire accepter sa religion des vaincus, il fallait remporter sur leur âme une dernière victoire, plus difficile que celle des armes. De même que le saint Vasishtha était mort percé d'une flèche pour révéler la vérité suprême à Krishna, de même Krishna devait mourir volontairement sous les traits de son ennemi mortel pour implanter jusque dans le cœur de ses adversaires la foi qu'il avait prêchée à ses disciples et au monde. Il savait que l'ancien roi de Madura, loin de faire pénitence, s'était réfugié chez son beau-père, Kalayeni, le roi des serpents. Sa haine, toujours excitée par Nisumba, le faisait suivre par des espions, guettant leur propice pour le frapper. Or, Krishna sentait que sa mission était terminée et ne demandait, pour être accompli, que le sceau suprême du sacrifice. Il cessa donc d'éviter et de paralyser son ennemi par la puissance de sa volonté. Il savait que s'il cessait de se défendre par cette force occulte, le coup longtemps médité viendrait le frapper dans l'ombre. Mais le fils de Devaki voulait mourir loin des hommes, dans les solitudes de l'Himavata. Là, il se sentirait plus près de sa mère radieuse, du vieillard sublime et du soleil de Mahadeva. Krishna partit donc pour un ermitage qui se trouvait dans un lieu sauvage et désolé, au pied des hautes cimes de l'Himavata. Aucun de ses disciples n'avait pénétré son récit. Seul, Sarasvati et Niftali le lurent dans les yeux du maître par la divination qui est dans la femme et dans l'amour. Quand Sarasvati comprit qu'il voulait mourir, elle se jeta à ses pieds, les embrassa avec fureur et s'écria « Maître, ne nous quitte pas !» Niftali le regarda et lui dit simplement « Je sais où tu vas. Si nous t'avons aimé, laisse-nous te suivre. » Krishna répondit « Dans mon ciel, il ne sera rien refusé à l'amour. Venez. » Après un long voyage, le prophète et les saintes femmes atteignirent des cabanes groupées autour d'un grand cèdre dénudé sur une montagne jaunâtre et rocheuse. D'un côté, les immenses dômes de neige de l'Himavata. De l'autre, dans la profondeur, un dédale de montagne. Au loin, la plaine. L'Inde perdue comme un songe dans une brume dorée. Dans cet ermitage vivaient quelques pénitents en vêtements d'écorce, aux cheveux tordus en gerbe, la barbe longue et le poil non taillé, sur un corps tout souillé de fange et de poussière, avec des membres desséchés par le souffle du vent et la chaleur du soleil. Quelques-uns n'avaient qu'une peau sèche sur un squelette aride. En voyant ce lieu triste, Sarasvati s'écria « La terre est loin et le ciel est muet. Seigneur, pourquoi nous as-tu conduits dans ce désert, abandonné de Dieu et des hommes ?»« Prie, répondit Krishna, si tu veux que la terre se rapproche et que le ciel te parle. » « Avec toi, le ciel est toujours présent, » dit Niftali. « Mais pourquoi le ciel veut-il nous quitter ?»« Il faut, » dit Krishna, « que le fils de Mahadeva meure percé d'une flèche pour que le monde croie à sa parole. » « Explique-nous ce mystère. » Vous le comprendrez après ma mort. Prions. Pendant 7 jours, ils firent les prières et les ablutions. Souvent, le visage de Krishna se transfigurait et paraissait comme rayonnant. Le 7e jour, vers le coucher du soleil, les deux femmes virent des archers monter vers l'ermitage. « Voici les archers de Kamsa qui te cherchent, » dit Sarasvati. « Maître, défends-toi. » Mais Krishna, à genoux près du cèdre, ne sortait pas de sa prière. Les archers vinrent, ils regardèrent les femmes et les pénitents. C'étaient de rudes soldats, à faces jaunes et noires. En voyant la figure extatique du saint, ils restèrent interdits. D'abord, ils essayèrent de le tirer de son extase, en lui adressant des questions, en l'injuriant et en lui jetant des pierres. Mais rien ne put le faire sortir de son immobilité. Alors, ils se jetèrent sur lui et le lièrent au tronc du cerf. Krishna se laissa faire, comme dans un rêve. Puis, les archers, se plaçant à distance, se mirent à tirer sur lui en s'excitant les uns les autres. À la première flèche qui le transperça, le sang jaillit et Krishna s'écria « Vasishta, les fils du soleil sont victorieux !» Quand la seconde flèche vibra dans sa chair, il dit « Ma mère radieuse, que ceux qui m'aiment entrent avec moi dans la lumière !» À la troisième, il dit seulement « Mahadeva !» Et puis, avec le nom de Brahma, il rendit l'esprit. Le soleil s'était couché. Il s'éleva un grand vent. Une tempête de neige descendit de l'Himavat et s'abattit sur la terre. Le ciel se voila. Un tourbillon noir balaya les montagnes. Effrayés de ce qu'ils avaient fait, les meurtriers s'enfuirent et les deux femmes, glacées d'épouvante, roulèrent, évanouies sur le sol, comme sous une pluie de sang. Le corps de Krishna fut brûlé par ses disciples dans la ville sainte de Dwarka. Sarasvati et Nijdani se jetèrent dans le bûcher pour rejoindre leur maître. Et la foule crut apercevoir le fils de Mahadeva sortir des flammes avec un corps de lumière, entraînant ses deux épouses. Après cela, une grande partie de l'Inde adopta le culte de Vishnu, qui conciliait les cultes solaires et lunaires dans la religion de Brahma. Chapitre 8. Rayonnement du Verbe solaire. Telle est la légende de Krishna, reconstituée dans son ensemble organique et replacée dans la perspective de l'histoire. Elle jette une vive lumière sur les origines du brahmanisme. Certes, il est impossible d'établir par des documents positifs que derrière le mythe de Krishna se cache un personnage réel. Le triple voile qui recouvre l'éclosion de toutes les religions orientales est plus épais en Inde qu'ailleurs. Car les brahmanes, maîtres absolus de la société hindoue, uniques détenteurs de ces traditions, les ont souvent modulées et remaniées dans le cours des âges. Mais il est juste d'ajouter qu'ils en ont fidèlement conservé tous les éléments, et que si leur doctrine sacrée s'est développée avec les siècles, son centre ne s'est jamais déplacé. Nous ne saurions donc, comme le font la plupart des savants européens, expliquer une figure comme celle de Krishna en disant « c'est un conte de nourrice plaqué sur un mythe solaire, avec une fantaisie philosophique brochée sur le tout ». Ce n'est pas ainsi, croyons-nous, que se fonde une religion qui dure des milliers d'années, enfante une poésie merveilleuse, plusieurs grandes philosophies, résiste à l'arnaque formidable du bouddhisme, aux invasions mongoles, mahométanes, à la conquête anglaise, et conserve, jusque dans sa décadence profonde, le sentiment de son immémoriale et haute origine. Non. Il y a toujours un grand homme à l'origine d'une grande institution. Considérant le rôle dominant du personnage de Krishna dans la tradition épique et religieuse, ses côtés humains d'une part et de l'autre son identification avec Dieu manifesté ou Vishnu, force nous est de croire qu'il fut le créateur du culte vishnouïte, qui donna au brahmanisme sa vertu et son prestige. Il est donc logique d'admettre qu'au milieu du chaos religieux et social que créait dans l'Inde primitive l'envahissement des cultes naturalistes et passionnels, parut un réformateur lumineux qui renouvela la pure doctrine arienne par l'idée de la Trinité et du Verbe divin manifesté, qui mit le sceau à son œuvre par le sacrifice de sa vie et donna ainsi à l'Inde son âme religieuse, son moule national et son organisation définitive. L'importance de Krishna nous paraîtra plus grande encore et d'un caractère vraiment universel si nous remarquons que sa doctrine renferme deux idées mères, deux principes organisateurs des religions et de la philosophie ésotérique. J'entends la doctrine organique de l'immortalité de l'âme ou des existences progressives par la réincarnation et celle correspondante de la Trinité ou du Verbe divin révélé dans l'homme. Je n'ai fait qu'indiquer plus haut la portée philosophique de cette conception centrale qui, bien comprise, a sa répercussion animatrice dans tous les domaines de la science, de l'art et de la vie. Je dois me borner pour conclure à une remarque historique. L'idée que Dieu, la vérité, la beauté et la bonté infinie se révèlent dans l'homme conscient avec un pouvoir rédempteur qui rejaillit jusqu'aux profondeurs du ciel par la force de l'amour et du sacrifice, cette idée féconde entre toutes apparaît pour la première fois en Krishna. Elle se personnifie au moment où, sortant de sa jeunesse arienne, l'humanité va s'enfoncer de plus en plus dans le culte de la matière. Krishna lui révèle l'idée du Verbe divin. Elle ne l'oubliera plus. Elle aura d'autant plus soif de rédemption et de fils de Dieu qu'elle sentira plus profondément sa déchéance. Après Krishna, il y a comme une puissante irradiation du Verbe solaire à travers les temples d'Asie, d'Afrique et d'Europe. En Perse, c'est Mithras, le réconciliateur du lumineux Hormuz et du sombre Ahriman. En Égypte, c'est Horus, le fils d'Osiris et d'Isis. En Grèce, c'est Apollon, le dieu du soleil et de la lune. C'est Dionysos, le ressusciteur des âmes. Partout, le dieu solaire est un dieu médiateur, et la lumière est aussi la parole de vie. N'est-ce pas d'elle aussi que jaillit l'idée messianique? Quoi qu'il en soit, c'est par Krishna que cette idée entra dans le monde antique. C'est par Jésus qu'elle rayonnera sur toute la terre. Je montrerai, dans la suite de cette histoire secrète des religions, comment la doctrine du ternaire divin se relie à celle de l'âme et de son évolution. Comment et pourquoi elles se supposent et se complètent réciproquement. Disons tout de suite que leur point de contact forme le centre vital, le foyer lumineux de la doctrine ésotérique. À ne considérer les grandes religions de l'Inde, de l'Égypte, de la Grèce et de la Judée que par le dehors, on ne voit que discorde, superstition, chaos. Mais sonder les symboles, interroger les mystères, chercher la doctrine mère des fondateurs et des prophètes, et l'harmonie se fera dans la lumière. Par des routes très diverses et souvent tortueuses, on aboutira au même point, en sorte que pénétrer dans l'arcane de l'une de ces religions, c'est aussi pénétrer dans ceux des autres. Alors un phénomène étrange se produit. Peu à peu, mais dans une sphère grandissante, on voit reluire la doctrine des initiés au centre des religions, comme un soleil débrouillant sa nébuleuse. Chaque religion apparaît comme une planète différente. Avec chacune d'elles, nous changeons d'atmosphère et d'orientation céleste, mais c'est toujours le même soleil qui nous éclaire. L'Inde, la grande songeuse, nous plonge avec elle dans le rêve de l'éternité. L'Égypte grandiose, austère comme la mort, nous invite au voyage d'outre-tombe. La Grèce enchanteresse nous entraîne aux fêtes magiques de la vie et donne à ses mystères la séduction de ses formes tour à tour charmantes ou terribles, de son âme toujours passionnée. Pythagore, enfin, formule scientifiquement la doctrine ésotérique, lui donne l'expression la plus complète, peut-être, et la plus solide qu'elle eut jamais. Platon et les Alexandrins ne furent que ses vulgarisateurs. Nous venons de remonter jusqu'à sa source, dans les jungles du Gange et les solitudes de l'Himalaya.